Alors, avant de, d'écouter ce que va nous partager Daniel, je vais lire le texte sur lequel il va prêcher. C'est dans Genèse, au chapitre 34 et une partie du chapitre 35. Donc Genèse 34. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, le fils d'Amor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle. Il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Amor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ, avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur tint ce discours. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Amor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce serait une honte pour nous. Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et partirons. » Amor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Amor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à leurs concitoyens, « Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendront-ils pas ? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, deux fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Jacob dit alors à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phérésiens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Bethel l'endroit où Dieu lui avait parlé.
On est toujours dans la série de Genèse. Et comme vous savez, on suivit la Bible. Donc, on doit regarder un texte comme ce soir. Ce n'est pas facile, mais on va essayer. Connaissez-vous le chant de Bilal? Je vais essayer. Comment ça va? Can't buy me love, money can't buy me love. Vous connaissez? Can't buy me love? Mais voilà, ok, c'est la fin. Mais dans nos jours, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, j'ai l'impression que tout a un prix. Money can't buy me love, mais en fait, on voit dans notre vie que tout a un prix. On l'a bien regardé quand on regarde les émissions dans la télé, qu'on voit quelqu'un qui voudrait se marier avec un millionnaire. Comme ça, elle peut trouver le bonheur et l'affection. On voit ça souvent quand on voit les gens qui voudraient bien gagner le loto. Et à ce moment-là, il peut gagner le bonheur et gagner l'affection. Donc, du coup, ça paraît logique que quelquefois, certains croient qu'on pourrait acheter les bénédictions de Dieu. Mais il y a une vraie différence entre accepter la faveur de Dieu parce qu'on lui donne et ce qui lui revient, et essayer d'obtenir ces bénédictions comme si c'était faire des achats. En vrai, Dieu ne nous doit rien du tout. Souvent, on croit que notre relation, fonctionne comme une transaction ou un échange avec Dieu, n'est-ce pas? Ben, la plupart du monde croit que ben, si je suis sage, si j'aime les uns et les autres et je ne fais pas de bêtises, Dieu va me récompenser à la fin. Peut-être quelques-uns pensent que ben, si je prie avant le repas, si je prie à partir avant de dormir, ça va m'aider. Dieu, peut-être donner un peu d'argent, donner un peu de service dans l'église, ben, donner un peu de service dans une association, Dieu va bien apprécier tous ces efforts. Et à la fin du chapitre 34, la chose que Nico a lu, c'est page 25 si vous êtes dans la Bible, mais à la fin du chapitre 34, il y a une question qui me frappe. C'est la première fois que j'ai prêché ce texte et il y a une question qui me frappe, verset 31. C'est le frère qui dit, après qu'ils ont fait tout ce massacre, ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? » En gros, le frère dit que personne n'a le droit à traiter notre sœur comme quelqu'un qui tu payes pour des faveurs. L'histoire de Sichem pourrait-elle servir comme un avertissement à ceux qui cherchent à acheter ou même négocier leur récompense avec Dieu? Ça fait réfléchir, surtout quand on regarde le chapitre après. Je sais que c'est bizarre, mais il y a chapitre 34, après chapitre 35. Donc quand on regarde 35, c'est important de regarder qu'est-ce qui s'est passé chapitre 34. Est-ce qu'il voit, donc 35, on voit que Jacob et sa famille donnent le dîme au chapitre 35. Est-ce qu'on peut fermer cette fenêtre-là? Est-ce qu'il voit leur relation avec Dieu un peu comme un échange? Un peu comme un échange. On ne peut pas vraiment acheter la bénédiction ou la faveur de Dieu. Alors, comment éviter de vouloir acheter sa faveur? Ce soir, on va voir trois choses qui ressortent dans ces chapitres 34 et 35. Notre attitude, nos attentes et notre responsabilité. C'est les trois choses importantes pour nous, juste de créer une vie saine et authentique avec notre Dieu. Et on va regarder chapitres 34 et 35 au même temps, parce que vous allez voir. Donc, la première chose, c'est notre attitude. On voit l'attitude de Sichem dans ces premiers quatre versets. Comme j'ai dit, ce n'est pas un texte facile, c'est difficile à entendre. Et si vous avez vécu une expérience similaire comme Dina, je suis reconnaissant parce que vous êtes là, que vous continuez à persévérer. Dieu reste fidèle même dans les situations complexes. Il ne corrige pas les erreurs humaines comme ils ont fait, ni les empêche toujours. Mais Dieu, il s'en sert pour accomplir son plan. Mais il me semble que cette histoire, ce n'est pas seulement juste un truc de violence, un acte de violence, mais c'est quelque chose de plus. C'est une stratégie de Sichem pour épuiser Dina. Donc, certaines régions aujourd'hui, même à cette époque-là, on voit qu'il y a des mariages arrangés, n'est-ce pas? Et pour ces mariages arrangés par les parents, quelquefois, les jeunes cherchent à façon à éviter ce mariage arrangé. Et quelquefois, c'est pour forcer le mariage. Et il me semble dans ce texte-là, c'est Sichem qui cherche à forcer le mariage. Souvent, le couple se marie malgré tout et la famille de garçons doit payer davantage. Et même si on ne sait pas si Dina a vraiment dit non ou quoi, on peut regarder les différents textes hébreux et ce n'est pas clair. Mais quelque chose qui ressort, c'est que Sichem vu Dina comme quelqu'un qu'il peut obtenir. Il a vu Sichem comme quelqu'un qu'il peut manipuler. Il a vu Sichem comme quelqu'un qu'il peut acheter même. Qu'est-ce qu'on voit avec l'attitude de Jacob? On va sauter dans chapitre 35, le premier verset de 35. Donc, avec Jacob, tu te souviens de l'histoire de Lot? Qu'est-ce qui se passe avec Lot? Il a mal choisi souvent les villes, Sodome, Gomorre, les autres endroits. Toujours, il a mal choisi. Et qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Jacob revient en Canaan, mais il n'est toujours pas rejoint Bethel. Ça, c'était son but. Pour rejoindre Bethel, parce qu'en chapitre 28, il a fait une promesse, il a fait un vœu avec Dieu pour dire, si je reviens, si tu me protèges, quand j'arrive, je te donnerai, verset 22, chapitre 28, Jacob dit, je te donnerai, futur, le dîme de tout ce que tu me donneras. Mais le problème, c'est Jacob n'est jamais arrivé à Bethel. Il a arrêté juste avant. Peut-être un jour et demi avant Bethel, et ils créaient leur camp juste à côté de cette ville de Hichem. Donc, quand Dina sort, ils sortent dans cette ville dangereuse qui était vraiment dans la désobéissance de Jacob, et ça, c'est pourquoi ils sont là. Donc, ces premières parties de verset de 35, c'est à ce moment-là que Dieu est en train de rappeler Jacob tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit il y a 20 ans, rappelez-vous. Ça veut dire reconnaître Dieu, installer un endroit pour prier et donner un part de ce qu'il gagne. Donc, ces premières parties de 35, c'est un rappel pour Jacob de souvenez-vous, souvenez tout ce que tu as dit. Donc, ça, c'est pourquoi, quand on regarde versets 2 et 4 dans chapitre 35, juste avant qu'il parte, il parle de cet aspect qu'il voudrait bien purifier. Il a parlé de sa famille et aussi toutes les personnes qui étaient là. Qui sont ces personnes qui étaient là? C'est les personnes de la ville de Sichem. Il a emmené tous ses enfants, toutes ses familles, et maintenant, ils viennent avec tout leur Dieu et ils doivent purifier ces personnes par leurs bijoux, par leur autre dieu. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas brûlé sous ses dieux, mais il juste il enterre tous ses objets avant qu'il ait parti. Donc, on voit l'attitude. Dans cette première partie, on observe l'attitude de Sichem, qui considère Dina comme un objet, comme quelque chose qu'il peut acheter, quelque chose qu'il peut manipuler. Pourquoi? Parce qu'il cherche quelque chose pour ses besoins, pour ses intérêts. Jacob, après l'agression de Dina, après tout ce qui se passait, pour la première fois, il me semble, il comprend en masse qu'est-ce que j'ai fait. Et il reprend la route à Bethel pour faire cet autel à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand on offre un cadeau de bon cœur, ce n'est pas vu comme une corvée. On n'est pas la même attitude quand on donne quelque chose par amour. En fait, nos cadeaux de Dieu devraient juste montrer à quel point on le respecte et on l'apprécie. Parfois, on a envie de donner à Dieu tout ce qu'on a parce qu'il nous a donné tout ce qu'on a. Mais si on donne parce qu'on sent obligé, on risque de faire contre-cœur. Tandis que quand on donne avec amour, souvent ça prend de l'intentionnalité, mais aussi ça devient un vrai moment d'adoration. Et ces dernières années, c'est surtout avec ma femme et mes enfants, je comprends les différences. Souvent, quand je donne un cadeau, pas bien penser, pas bien réfléchir, juste donne un cadeau, ils voient les différences d'un cadeau qui vient de mon cœur et un cadeau qui est juste donné au hasard. C'est normal. Et si mes enfants et si ma femme peuvent regarder les différences, comment Dieu peut regarder les différences pour nous? Imagine à quel point Dieu voit bien notre vraie attitude et qu'on ressente pour lui. Donc, l'attitude compte. La deuxième chose qu'on voit, c'est nos attentes. On va retourner au chapitre 34, versets 5 à 24. On voit les attentes de Sichem, Amour, les frères et les citoyens. À cette époque-là, la vie des filles, ce n'était pas important. Ils n'ont pas pris en compte. J'espère aujourd'hui, j'espère que personne n'accepterait qu'une fille épouse son agresseur. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Et on voit un peu le changement de Jacob. L'ancien Jacob, j'imagine, c'est quelqu'un qui peut-être, je vois que je peux gagner un peu plus avec cette situation. Mais le nouveau Jacob, qu'est-ce qu'on voit avec lui à ce moment-là? Il reste silencieux, il ne dit rien. Donc on voit qu'il y a un changement, mais pas trop. Parce que maintenant, il dit rien du tout. Dans cette situation, il reste silencieux. C'est intéressant parce qu'à cette époque-là, il y avait toujours des différents codes, des différentes choses pour protéger l'honneur familial. C'était quelque chose même déjà là, avant Moïse, pour régler contre ses actes sexuels. Mais les frères de Dina sont fortement choqués par tout ce qui se passait. Et c'est intéressant parce qu'ils ont dit... cela ne fait pas chez nous en Israël, même que Israël n'existait pas à cette époque-là. Mais c'est important parce que ça créait vraiment un problème. Ça créait un problème pour Jacob et sa famille. Pourquoi? Qu'est-ce que Amor a dit? Il a dit, comme ça on peut créer un seul peuple. Ça, c'est un problème pour la promesse de Dieu, parce que pour la promesse de Dieu, il a parlé avec Jacob qu'il va créer son peuple. Donc, s'ils sont intégrés dans le peuple de Sichem et Amor, ça va changer pas mal de choses. Ce n'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Dina ou Jacob ou comment ils ressentent. Alors, pour l'autre, c'est clair. On voit avec Sichem qu'il est complètement fou de Dina, et il veut vraiment l'épouser. Verset 11, verset 12, verset 19, il est complètement fou de Dina. Il voudrait bien épouser Dina. Aussi, on voit verset 13, chapitre 34, que les fils de Jacob, ils sont en colère, et ils voudraient bien défendre leur honneur famille. On est là pour défendre. Il part, même il répond à la question de Hamor et Sichem, pas Jacob, mais ses frères. Il exige que tous les hommes de Sichem soient circoncis comme condition pour le mariage. Et encore, la circoncision, c'était, on a discuté ça, je pense, dans notre église de maison il y a quelques mois, mais la circoncision existe même à cette époque-là. C'était souvent utilisé pour une cérémonie de mariage ou pour la fertilité, pour une fête de fertilité. Mais bien sûr, ce n'était pas des bébés, donc ça veut dire que l'opération était vraiment douloureuse et les gars sont restés carreaux pendant quelques jours. Mais ça, c'est ce qu'ils ont demandé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien créer un peu une ruse pour tous ces citoyens. Et on voit encore l'écho qu'on voit dans ces actions comme Jacob. Le fils de Jacob un peu utilisé un peu la même méthode que leur père. Leur façon d'agir rappelait aussi un peu la façon que comment Laban a dit quelque chose et puis il a changé son avis avec Jacob. On voit ces échos là. Mais la pire chose que c'est pour ses frères, il passe pas juste avec une ruse, mais il passe par les violences et le massacre. Aussi, on voit en chapitre 34, versets 21 et 23, aussi, Hamor, c'est le père de Sichem, et qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que ses attentes? Ben, ça mérite pas nous, ça peut nous aider. Tu vois, tu les richesses, tu vois les bénédictions, ben, ça peut nous aider, cette alliance. Malgré si ce n'était pas une condition agréable, il voit encore les choses importantes pour lui. Chapitre 35, versets 5 à 8, on voit les attentes aussi de Jacob à Bethel. Malgré tout ce qui se passait, Jacob a bien vécu la promesse de Dieu, son fidélité, et on pense que ben, peut-être à ce moment-là, il arrive. Peut-être à ce moment-là, ça va aller. Mais qu'est-ce qui se passe? La fin du chapitre 34, quand Simeon et Lévi, quand ils ont massacré toutes ces personnes, Jacob est en colère contre eux. Pourquoi? Parce que maintenant, il a peur que tout le monde va le tuer. Il manque de confiance avec Dieu. Mais heureusement, les fidélités de Dieu ne comptent pas, ne dépendent pas de notre confiance en lui, de nos attentes envers lui. On voit ça en verset 5, quand Jacob et son famille, quand ils partent pour Bethel, qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu va devant eux et crée des craintes dans toutes les villes pour protéger Jacob et sa famille. Aussi, on voit comment le auteur de Genèse, Moïse, voudrait bien souligner comment, en fait, c'est plutôt la fidélité de Dieu et pas que la fidélité de Jacob. Il a plus de confiance en Dieu parce qu'en verset 8, il parle de Deborah, qu'ils ont enterré dans ce territoire. Ça veut dire que ça crée encore le lien avec la promesse, la terre promise, dans cette région-là. Donc, c'était assez important. L'auteur de Genèse voudrait bien accorder toutes ces choses que Dieu a fait et comment Dieu a bien guidé le chemin pour ces personnes-là. Il voit son attente vers Dieu et pas toujours avec Jacob et ses fils. Donc, dans cette deuxième partie, on voit encore nos attentes. L'attente de Sichem, Hamor, les habitants sont clairs. Ils cherchent essentiellement à gagner des avantages ou du pouvoir, montrer un peu d'intérêt. Dina, ce n'est pas important pour eux. Jacob, ce n'est pas important. Et ils considèrent la circoncision juste comme une obligation, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour gagner plus de ressources. On va utiliser ça pour avoir plus de richesses, plus de prestige. Aussi, on voit que les attentes de frères, c'était clair. Ils cherchent la vengeance, ils cherchent de régler les choses, pas de réconciliation, mais plutôt de régler le compte. Et on voit cette attitude a provoqué pas mal de choses avec la colère de Jacob et aussi il a mis la famille en danger. Donc dans la vie, dans tous nos jours, quand on bosse pour quelqu'un, il y a toujours un contrat ou une entente pour savoir qu'est-ce qu'on va recevoir. Il y a un contrat là. Mais avec Dieu, nos cadeaux, c'est juste pour lui, sans calcul. C'est pas un contrat avec lui qu'on va recevoir quelque chose en retour. Notre Dieu ne marche pas comme ça. Quand on donne quelque chose à Dieu, ça vient de notre cœur sans entendre un truc en retour. Et la troisième chose, on voit notre responsabilité. On va retourner en chapitre 34, le dernier verset, et on voit Simeon et Lévi. Donc, comme j'ai dit, ils ne sont pas juste éliminés tous les hommes, mais ils ont aussi embarqué toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces animaux, toutes ces richesses. Et ils ont fait ça, pourquoi? Parce qu'ils voudraient bien récupérer le prix pour leur sœur. Bah, tu nous as déshonorés, donc on va prendre le prix pour notre sœur. Et encore, ça, il me semble, ça c'est pourquoi en 35, Jacob doit purifier toutes ces personnes-là parce que maintenant, ils amènent toutes leurs idoles, tous leurs autres dieux, et ils doivent purifier tous ces groupes-là parce que maintenant, ils ont de nouvelles arrivées. Simeon et Lévi n'auraient pas dû massacrer les gens de Sichem, mais grâce à leur geste, ils ont évité d'intégrer la famille dans la famille de Sichem. Ils n'ont pas resté comme une seule famille. Ils n'ont pas resté dans ce coin. Et c'est exactement ce que Dieu a demandé. On voit aussi la responsabilité en chapitre 35, versets 9 à 15, quand Dieu rappelle son alliance et sa responsabilité avec Jacob. C'est pas la première fois que Dieu apparaît encore à Jacob. Versets 9 à 12. Ce fois, il vient comme deux puissants, El Shaddai. C'est un moment important pour lui parce qu'il est venu en Genèse chapitre 17 et Genèse 28 qui montre encore son alliance vers son peuple et encore en 32. Et c'est encore une façon de changer le nom de Jacob pour rappeler tout ce qu'il a déjà dit à Jacob. La chose qui est différente à ce moment-là, c'est qu'il note un peu la bénédiction de Dieu pour les nations, pour les rois et aussi pour la paix, comme il a déjà fait pour Bethel la première fois. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Finalement, Jacob construit un nouveau monument et fait une offrande de vin et de l'huile comme il a promis il y a 20 ans. Il a pris la responsabilité. Simeon et Lévi ont vengé l'affaire des Sichem en tuant tous les hommes de la ville et même les innocents. Leur réaction excessive et injuste a fini par se retourner contre eux. Ils ont mal compris leur responsabilité. Jacob, autrefois disant que à cause des erreurs de ses fils, commence à accuser Dieu et c'est un rappel pour lui pour retourner à Dieu et de reprendre la route à Bethel. Et pour sceller cet engagement, il a donné son offrande à lui. On voit dans la fin du chapitre 35, plus loin dans l'histoire, Jacob qui retourne à Hébron, là où son père Isaac sera enterré plus tard. C'est durant ce voyage que Rachel a accouché leur dernier fils, Benjamin, mais elle meurt juste en donnant la naissance juste après, dans la proximité de Bethléem. Donc, plus important, ça nous aide à comprendre comment on est arrivé à 12 fils qui formeront les 12 tribus d'Israël. Dieu s'engage vers son peuple. Ça, c'est ce qu'on a vu pendant toute cette série. Dieu s'engage vers son peuple. Dieu trace son chemin malgré nous. Malgré nous. Quand quelqu'un est payé pour un boulot, on met souvent un système en place pour vérifier qu'il fait bien ce qu'il doit faire. Comme Jacob, on peut nous aussi demander quelques-uns comme ses fils, et quand ils ont fait une bêtise, et on rend compte et on doit juger ces choses-là. Mais pas avec Dieu. C'est pas pareil. Il n'a pas besoin de passer des entretiens. On n'a pas besoin de recevoir. Il n'a pas besoin de recevoir des objections, d'attendre. Il n'y a rien à prouver à personne. Il ne faut pas croire qu'on pourrait lui faire croire qu'il nous doit quelque chose. C'est pas notre rôle. Ce qu'on lui donne doit venir de cœur, sans rien entendre en retour. En fait, on ne pourra jamais rembourser tout ce qu'il nous a donné. C'est vrai parce que tout ce qu'on a vient de lui. Sa bénédiction, on ne peut pas l'acheter. Parce que money can't buy me love. Christine a envoyé un poème à moi cette semaine qui parle de notre situation dans ces chapitres. Il dit, « Deux natures se débattent dans mon cœur. » L'une est sombre, l'autre est bénie. J'aime l'une et je rejette l'autre. C'est celle qui je nourris qui me dirige. C'est celle qui je nourris qui me dirige. Ce soir, on a identifié trois choses à nourrir pour une relation authentique et sainte grâce à Christ. Notre attitude, nos attentes et notre responsabilité. Comment est-ce que ton attitude, ce que tu donnes et la façon dont tu rends service montrent la grâce que tu as reçue en Christ? Comment est-ce que ton attitude, ce que tu donnes et la façon dont tu rends service montrent la grâce que tu as reçue en Christ? En Christ, on se reproche de Dieu pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on l'aime. Et on veut l'apprécier, on veut le respecter, on veut bien l'adorer. Dieu ne demande pas d'être parfait. Ce qu'on voit dans cette série avec Jacob, avec Abraham, avec tous ces patriarches, ce n'était pas parfait. Ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais petit à petit, il reste avec nous, petit à petit, il change notre caractère, il transforme notre façon à penser, il transforme notre façon à rendre service, il transforme notre façon de mettre nous au centre de tout ce qu'on fait. Et puis en plus, on avance avec confiance, avec adoration, et aussi avec un service pour lui dans le royaume. La fin de chapitre 34, on voit trois jours après leur circoncision, Simeon et Lévi ont condamné Sichem, Hamor et tous les habitants de la ville. Trois jours après, nous aussi, on mérite tous d'être jugés par nos péchés et par la façon qu'on commet des erreurs contre Dieu et les autres. Nous aussi. Mais Dieu a envoyé son fils qui a vécu une vie parfaite avec une attitude de serviteur, a été crucifié à notre place avec une attente pour accomplir le plan de Dieu, puis ressuscité trois jours après, qui prend sa responsabilité comme vainqueur. Convaincre. Grâce à Jésus, on a la victoire, on a la vie éternelle pour une vie d'adoration, sans être ni jugé ni condamné pour nos péchés quand on croit en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous ce soir. Amen. Je voudrais vous inviter à prier tous ensemble dans notre prière en commun. Seigneur, pardonne notre attitude, notre façon à vivre avec une perspective de nous-mêmes, centrée sur nous-mêmes, et voir les choses un peu plus centré sur tout ce qu'on peut recevoir. Seigneur, parle-nous. Amen. Comme Jacob, on a besoin des rappels. Ça, c'est pourquoi on fait la Sainte Cène. C'est une façon de rappeler tout ce qu'on a en Christ. Ben, si Jacob a besoin de tous ces rappels, on a besoin de la même chose, n'est-ce pas? Et on oublie souvent. On cherche la nourriture dans plein de choses et pas en lui. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, Jésus explique, il a rompu et il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris le coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'il revienne. » Jusqu'il revienne. Ça, c'est notre rappel ce soir. Qu'on peut trouver ce cadeau que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et ça peut nous transformer notre façon à vivre avec l'adoration en Christ cette semaine. Donc, je vous invite, si vous croyez en Christ comme votre sauveur, vous pouvez participer dans la Sainte Cène. Et puis, on va terminer avec un chant.